Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de lecture. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi, c'est Héloïse. Je suis coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club après avoir renoué avec la magie des mots et le plaisir des livres. Les histoires m'ont toujours passionnée, et plus encore celles des gens, des vrais, ceux que tu croises dans la rue, avec qui tu parles autour d'un café. Je suis convaincue que nos vies sont la plus grande source d'inspiration. Tout est là. Il n'y a plus qu'à observer, se poser et raconter. Dans ce podcast, j'interviewe des personnes pour qui les mots ont pris une place capitale, que ce soit à travers la lecture ou l'écriture. Des personnes comme toi et moi, qui naviguent à travers la vie avec cette boussole-là. Quels sont les mots qui aident à avancer ? Quels sont les mots qui aident à mieux se connaître, à se libérer ? Parce que oui, les mots délivrent. Et c'est ce qu'on va découvrir avec notre prochaine invitée. Florence est une jeune indépendante ultra dynamique. Sa vie, c'est de l'adrénaline puissance 1000. Alors un jour, quand elle sent que ça commence un peu à déborder, elle décide de revisiter sa créativité autrement et d'enfin oser se raconter. Oui, mais pas n'importe comment. Se raconter à travers toutes les destinées qu'elle rêve de rencontrer. Son processus d'écriture, il est hypersensible, il transpire les sensations, la vie avec un grand V. Alors prépare-toi à danser au rythme des ondes vibrantes qu'elle va t'envoyer. Coucou Florence.
Bonjour Héloïse.
Coucou. Je suis contente que tu sois là dans ce podcast. Ça me tenait vraiment à cœur de t'inviter, donc merci d'être là.
C'est avec grand plaisir.
Alors Florence, on va parler de toi d'une manière qui peut peut-être sembler inédite, mais Florence, tu écris.
On va dire que beaucoup de gens savent que j'écris pour des entreprises et parce que c'est mon métier, mais pas pour moi ou pour des choses plus personnelles.
Voilà, bah déjà on en dévoile un petit peu plus. Est-ce que tu peux te présenter de manière générale pour les personnes qui nous écoutent ?
Oui, bien sûr. Je vais avoir 30 ans cette année et j'ai lancé ma propre société il y a environ bientôt 3 ans, vraiment dédiée à la rédaction, mais dédiée à la rédaction pour des entreprises dans le cadre d'une communication, de campagne de communication, de marketing, de contenu de sites web, de réseaux sociaux, etc. Et ça a été un grand pas vers ma propre liberté.
Félicitations d'ailleurs.
Merci beaucoup. Et du coup, depuis que je suis indépendante, en fait, j'ai pu retrouver vraiment plus de temps. C'est difficile à croire, ça peut paraître paradoxal, mais plus de temps pour refaire un peu des choses pour moi, vraiment pour moi. Je suis quelqu'un de très créatif. J'ai toujours été très créative. J'ai toujours aimé faire des bricolages, faire des stages. D'ailleurs, petite pensée à ma famille qui doit vraiment se moquer de moi là en écoutant, parce qu'eux savent le style de stage que j'ai fait. Et je ne le dirai pas.
Oh, zut.
Mais j'ai toujours en fait adoré créer plein de choses. Et pendant tout un temps, pendant mes études, et puis quand j'ai commencé à travailler comme employée, j'avais plus du tout de place pour ça. J'en accordais pas beaucoup non plus. Et c'est environ il y a 3 ans que je t'ai contactée, deux ans que je me suis dit, tiens, en fait, j'ai toujours adoré écrire, j'ai toujours adoré les histoires, je dévore des livres depuis que je suis gosse.
Et je vois ta bibliothèque chez toi, immense.
Oui, c'est ce qu'on appelle des achats compulsifs de livres, alors je me dis que c'est un peu moins jugeant. Mais en fait, oui, je me suis dit que je pouvais aussi écrire pour moi. Et donc j'étais arrivée avec un projet très très clair en tête. Et là maintenant, depuis 2 ans, je fais tout sauf ce projet-là. Mais par contre, j'ai retrouvé beaucoup de plaisir à écrire, pas à vocation de vente, quoi. Ouais. Pas à vocation professionnelle pour un discours d'entreprise ou un discours commercial. Là, c'est vraiment écrire pour à la base, toute seule dans mon carnet et que personne n'en entende parler. Aujourd'hui, les choses changent.
Elles changent beaucoup parce qu'on va revenir un petit peu sur ce parcours d'écriture et au moment où, effectivement, il y a un déclic où je vais vraiment écrire pour moi et avec des intentions bien particulières au départ. Mmh. Effectivement, elles ont évolué. Moi, ce que je souligne, et en fait, je l'entends, j'ai beaucoup de personnes, je croise beaucoup de personnes, je travaille avec beaucoup de personnes qui travaillent dans la communication, la rédaction, le journalisme, etc. Et en fait, ce que tu amènes là, je l'entends très souvent. J'écris, entre guillemets, pour les autres, où j'écris d'une certaine façon, avec un formatage plus professionnel, et puis après, et moi. Mmh. Et cette écriture pour moi, ouais, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes aussi qui nous écoutent. Donc il y a, ouais, ça va faire 2 ans, quand on se rencontre, tu me parles de ça, et tu voulais écrire, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est quoi ce déclic de, ok, tu viens déjà un peu de le mentionner, je suis indépendante, je veux remettre un petit peu plus de place. Mmh. Pour la créativité, mais c'est quoi le vrai déclic? Là, j'y vais, je m'organise, je prends ma décision, j'ai envie de me lancer dans cette nouvelle voie.
Je pense que le déclic, c'était pas spécialement un déclic par rapport à l'écriture, c'était plus un déclic par rapport au fait de me dire, ok, en fait, j'ai encore des choses à régler avec moi-même. Des choses qui se sont passées, des choses qui me poursuivent, enfin qui me suivent depuis des années et dont en fait j'ai pas encore réussi réellement à comprendre, enfin j'ai pas réussi encore à tout comprendre, à tout maîtriser. Je suis quelqu'un qui est très dans la maîtrise, donc moi ce que je ne maîtrise pas justement, soit ça me fait peur, soit alors je fais tout pour essayer justement de prendre les choses en main. Et je pense qu'il y avait une volonté quand même de dire il y a des choses qui sont pas réglées, mais j'aimerais quand même bien poser ça quelque part. Et plus à vocation, pas de raconter cette histoire-là à quelqu'un d'autre, mais plus à vocation cathartique de dire tiens, en fait, je vais le poser pour que ce soit plus dans ma tête à moi, quoi.
C'est vraiment ça, ouais.
Et c'était en fait, on peut aller dans la confidence, j'ai aucun problème avec ça. J'ai eu une enfance merveilleuse, avec une famille merveilleuse, des frères et sœurs merveilleux, des amis merveilleuses. Mais ça a été une enfance particulièrement touchée par un phénomène qu'on a nommé seulement quelques dizaines d'années après, qui était le harcèlement scolaire. Et j'en ai été moi-même une victime, il a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, mais une victime silencieuse et une victime anonyme et une victime transparente, parce qu'à l'époque, personne ne se posait des questions comme ça. Les filles, ça se bagarrait dans la cour de récré comme les garçons, c'était des pestes, c'était méchant, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et c'est devenu en fait mon socle, c'est là-dessus que je me suis construite une énorme carapace pour essayer justement de mettre tout ça bien bien loin. Et quand on s'est rencontrés, c'est d'ailleurs toi qui as mis ces mots-là là-dessus en disant que, ben, en fait, on arrive à un moment donné où la carapace se fendit.
Je m'en souviens.
Et la carapace s'est fendillée et je me suis dit, ok, c'est bon, ben, c'est que je suis sur la bonne voie. Ça a fait ressurgir des choses très, très dures, des sentiments très, 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 très négatifs. Et là, tu m'as dit ce jour-là que, aussi, quand une carapace se fendit, ça laisse passer la lumière.
Oh,
et là, je me suis dit, voilà, c'est bon, c'est ça en fait l'histoire.
Et quelle lumière depuis ?
C'est qu'en fait, c'est pas spécialement poser quelque chose de négatif, c'est essayer d'aller chercher la lumière là où on la trouvait pas à cette époque-là, quoi. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Oui.
Et puis finalement, nous n'avons jamais écrit sur ce sujet-là.
Alors le projet n'est pas celui-là.
Il faudra, mais il reste bien, bien, bien présent dans ma tête. Et de toute façon, un jour, il faudra pour moi-même, je le pose.
Je crois que quand on se lance dans l'écriture et quand on s'autorise vraiment à y aller, moi, je crois vraiment qu'on ne raconte pas et qu'on ne racontera pas qu'une seule histoire. Mm-hmm. Donc, il y a celle-là qui existe toujours. Et puis, bah, le chemin que tu as pris t'a amené à avoir envie de raconter d'autres choses. En tout cas, je me souviens bien de cette première discussion. Et oui, elle s'est fendillée. Et puis, la lumière, moi, je suis là encore presque 2 ans après. Je dis, Florence, quoi. Tant de choses ont changé, évolué, avec des moments, oui, douloureux, des moments pas évidents, mais...
C'est certain. Mon aventure dans l'écriture n'est pas spécialement un long fleuve tranquille.
Mais c'est ça que j'ai envie de chercher, justement, dans notre discussion, c'est que chaque personne a une relation très particulière avec l'écriture, en fonction de qui elle est aussi, de son bagage, et en l'occurrence, ici, c'est vraiment un parcours encore différent, mais qui est justement intéressant pour ça. Avant de parler vraiment de ce process d'écriture et cette manière d'écrire et d'y aller, est-ce que tu peux lever pas tout, mais est-ce que tu peux lever un petit peu le voile sur, du coup, aujourd'hui, où tu en es? C'est quoi ce projet qui n'est pas du tout l'histoire de départ?
Oui, avec plaisir. En fait, il y a eu un deuxième déclic maintenant qu'on en parle. Juste après, quelques mois après qu'on soit vu pour ce projet d'écriture-là. Et j'avais déjà du mal à rentrer dans l'écriture. Je pense que c'est ma loi numéro un, c'est que entrer dans l'écriture, c'est difficile. Pour moi, c'est vraiment difficile. Pour mes clients, pas du tout, par exemple. Écrire pour mes clients, c'est pas du tout un problème, mais écrire pour moi, ça relève quand même d'un autre défi. Et je suis partie en mission humanitaire en octobre, il y a 2 ans, à Madagascar. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais déjà du mal à rentrer dans l'écriture et tu m'avais dit « Allez, prends un carnet et tu racontes tout ton voyage et chaque jour, tu notes. » Et c'est ce que j'ai fait. Chaque jour, je m'imposais de noter tout ce qui m'était arrivé, les moindres détails, ce que j'avais mangé, rien que pour essayer au moins de poser quelques lignes. Et finalement, je me suis rendu compte à quel point c'était la première fois que je ressentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui était en train de gronder à l'intérieur et qu'il allait falloir que ça sorte et que je ne savais pas encore comment. Et je suis quelqu'un de très, très... très émotive, très, très sensible. Donc, je peux partir dans des extrêmes de colère, de joie, d'un milliard de choses. Mais là, c'était un sentiment nouveau. C'est que je sentais que ça, il se passait quelque chose et que je savais pas du tout sous quelle forme ça allait sortir. Et cette mission à Madagascar, un jour, on avait un voyage en camionnette, en taxi-brousse pendant 14 heures. C'était infinissable. Alors, les paysages étaient magiques. On était une super équipe. Donc ça restait un bon moment. Mais à un moment donné, dans ce taxi-brousse et à cette place où j'avais mal aux fesses, je ne savais plus quoi faire de mes jambes, j'étais épuisée. Et là, d'un coup, ça m'est apparu et je me suis dit, mais en fait, c'est ça mon problème depuis toujours, c'est que ce que je suis en train de faire là, à Madagascar, je voudrais que ce soit ma vie. Quand je voyais les médecins s'occuper des enfants, les médecins que j'accompagnais, moi, en tant qu'assistante de brousse, entre guillemets, avec aucune formation là-dedans, ce qu'il faisait avait du sens. Je me suis vraiment dit, mais en fait, j'aurais trop dû choisir cette vie-là. Pourquoi j'ai choisi la mienne? Et puis, ça m'a apparu, mais vraiment comme un déclic de dire, mais en fait, ça m'arrivait tellement de fois de me poser cette question-là dans ma vie. À chaque fois, de me dire, mais en fait, si j'avais posé un choix différent à un certain moment, j'aurais pas été la même personne, je serais pas devenue la même personne, j'aurais pas eu la même vie. Je vivrais peut-être pas ici, je vivrais peut-être pas en Belgique, je vivrais peut-être pas, je sais pas, même... je vais pas dire sur cette planète parce que ça va être compliqué de vivre ailleurs, mais il y a plein de choses auxquelles j'avais renoncé en fait. Et là, dans ce taxi-brousse, après je pense 11 heures de route, je me dis, bah en fait c'est ça, j'ai pas envie de choisir, je veux tout vivre et tout vivre à fond et tout le temps. Et et donc je suis rentrée avec cette certitude en Belgique, et puis il a fallu se heurter à un retour à la réalité qui fait que
Tu reprends ta vie là où tu l'as laissée,
ouais. Et tu reprends, t'as fait des choix et tu peux pas juste venir et puis tout enlever comme ça, tout dégager de la table.
C'est pas si facile.
Et donc quand je suis rentrée ici, je me suis dit, mais oui, mais en fait non, enfin retour à la case départ, toutes ces vies que j'ai pas pu vivre, ben tant pis quoi. Qu'est-ce qu'on en fait?
Donc tu passes de je vais faire tout, je vais vivre toutes les vies que j'ai envie de vivre, je reviens et en fait.
Le gros clash en fait de me dire que. Je pourrais, mais de nouveau, c'est renoncer à certaines choses, renoncer à certains choix que j'ai opérés.
C'est renoncement, en fait.
C'est renoncer. Chaque choix que je dois faire, c'est renoncer. Et en fait, ça m'est apparu, et maintenant ça m'apparaît d'une limpidité claire, et pourtant, je pense que ma famille, mon compagnon, etc., savent à quel point je suis définie par ça. Je suis incapable de choisir. Choisir si je veux manger des pâtes ou une pizza, ça peut relever d'un incident diplomatique. Choisir, c'est renoncer. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas choisir. Et puis finalement, si, la réalité veut que quoi que tu fasses, si tu choisis de prendre un trottoir ou traverser la route pour prendre l'autre, c'est un choix. Et ça a des conséquences, si petites soient-elles. Et donc, quand je suis rentrée, énorme, énorme coup dur de me dire, en fait, non, je reviens. J'ai été pendant 3 semaines m'occuper d'enfants à Madagascar. Je reviens, je vais refaire des contenus de site web. En quoi ça a du sens?
Il m'a fallu
beaucoup de temps pour vraiment reprendre contact avec la réalité. Ça a vraiment pas été simple. Et puis la solution m'est apparue toute simple en disant, en fait, ces vies-là, je vais les écrire.
Oui, je frétille encore de l'intérieur parce que je me souviens du moment où tu viens, j'ai un truc à te dire et je te... Ah
Qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, donc là, rien à voir, on part sur autre chose.
Oui, non, là, ça a été vraiment...
Quelle autre chose? C'est encore plus dense et plus large. Et...
Oui, mais avec tellement de possibilités à ce moment-là. C'était ça qui était chouette, c'est que je me suis dit, mais en fait, je vais pouvoir m'inventer toutes les vies que j'ai envie.
Ouais, ouais.
Je vais pouvoir, enfin, je m'étais même dit, et d'ailleurs, je poursuis... Je vais être un homme. Dans une de mes histoires, je vais être un homme. Et c'est génial, ouais. En fait, parce que tu peux vraiment t'inventer des choses sans que ça n'ait aucune conséquence dans ta vie actuelle. Mm-hmm. Mais ça te donne quand même, si c'est pas les vies, ça te donne l'illusion de le faire. Mm-hmm. Et rien que l'illusion de pouvoir vivre un peu quelque chose d'autre... sans pour autant que ta vie soit triste ou pas assez bien. Mm-hmm.
C'est une de ces nombreuses vies.
C'est une de ces nombreuses vies. Et se dire que, ben voilà, de toute façon, on en choisit une pour de vrai. Et puis, on peut en avoir, je sais pas, mille autres pour de faux.
Donc, l'écriture, t'est apparue comme la réponse à... C'est plus qu'un dilemme, c'est un plurilemme, quoi, je veux dire.
Oui, c'est ça.
J'invente un mot, mais...
Exactement.
Oui.
Du coup, le projet sur lequel je travaille maintenant... enfin, c'est même pas sur lequel je travaille, c'est dans lequel je m'éclate.
Ah ouais.
C'est que j'écris sur 4 vies que j'aurais bien aimé vivre.
Mm-hmm.
Alors, il a déjà fallu en choisir 4. Je pense que j'en aurais pu en faire
78. Oui, il a fallu aussi se resserrer sur quelques points, ouais.
Mais voilà, je me suis dit que l'écriture allait être cet outil, en fait, qu'elle allait me permettre de plus apprécier ma vie comme elle est maintenant.
C'est ça.
Parce qu'en fait, en écrivant mes super vies dans mes carnets, ben, je fais face exactement à la même chose que dans la réalité. C'est que n'importe quelle super vie sur papier a quand même toujours des parts d'ombre, a des moments plus difficiles. Et ça m'a fait comprendre qu'en fait, si même un jour j'avais décidé de faire toute ma vie dans l'humanitaire, aller m'occuper d'enfants et avoir un métier qui faisait vraiment du sens pour moi, il y aurait eu des difficultés. Et peut-être qu'un jour, j'aurais croisé une rédactrice pour entreprise et je me serais dit, oh, mais en fait, je veux sa vie, c'est vachement plus chouette. Mm-hmm. On peut être créatif. Et donc, je pense qu'il y a, un gros travail d'ouverture sur le fait que, ben voilà, il y a
tout à fait.
Des possibilités, il y en a 1000. Et,
Quel fameux déclic, en tout cas. Il a fallu un voyage, un inconfort de 14 heures pour physique, mais peut-être un inconfort aussi qui s'est manifesté dans ce voyage, peut-être aussi dans quelque chose que tu t'expliquais qui grouillait.
Oui. Ah, c'était vraiment
tout
ça. C'était
un
comme
peu
une boule au ventre.
Ouais.
Et difficile, là. J'arrivais pas à savoir si c'était une boule au ventre suite au voyage et au boss et à l'absence totale de route sur les chemins sur lesquels on était. Ou si ça m'a très vite apparu comme quelque chose de plus de plus loin, de plus profond.
Mais j'entends souvent dans les déclics, que ce soit dans l'écriture, mais dans un changement de parcours, dans une nouvelle étape dans sa vie, etc. Bah, le déclic, ce qui précède le déclic, est souvent très inconfortable, en fait. Mm-hmm. Pour un mieux après, parce qu'en l'occurrence, c'est un gros kiff, comme tu le dis. ce que j'entends aussi, c'est que t'autoriser à vivre ses vies à travers l'écriture, en fait, ça te permet, en tout cas, je le reçois comme ça, quand tu m'en parles, ça t'a permis de dérouler ses vies. Et en fait, quand tu les déroules et que tu les vis d'une certaine manière, oui, tu te rends compte que on est tous confrontés à ces choses universelles, du choix, de la frustration,
Et qu'en fait, il n'y a pas une seule vie dans laquelle il ne se passe pas quelque chose parfois de moins chouette, ou qu'on aurait aimé voir autrement, faire autrement, entendre autrement, sentir autrement.
Tout à fait.
Et ça a été... c'est un kiff, c'est vraiment un kiff. Mm-hmm. Mais tu parles d'inconfort, c'est vraiment, moi, le début de chaque relation avec l'écriture.
Mm-hmm.
Ça commence toujours par l'inconfort.
Ah oui, oui, oui. Eh bien, écoute, on va en parler, parce qu'une fois que le déclic s'opère, le fameux deuxième déclic, qui à mon avis est le plus juste à ce moment-là, on y va, on écrit. Mm-hmm. Et comment ça se passe? C'est jubilatoire dès le début ou...
C'est jubilatoire dès le début, parce qu'en fait, ça arrive comme une explosion. C'est d'un coup, tout m'apparaît possible, tout m'apparaît clair, tout m'apparaît lumineux. Je vois des opportunités, des idées, des inspirations partout. Je suis vraiment bombardée par mes propres idées, en fait. Et du coup, il y a un côté très, très jubilatoire là-dedans, parce que je gratte mais un milliard d'idées, mais pas vraiment... De l'écriture. J'imagine la vie de mes personnages, j'imagine le contexte, j'imagine là où elles se trouvent, ce qu'il a pu leur arriver dans leur existence avant même que moi je les rencontre en soi. Mais j'écris pas encore réellement c'est plus du métatexte, c'est des idées, c'est tout ce qui entoure le récit. Et là-dedans, il y a quelque chose de très, très jubilatoire. Mais il y a quelque chose aussi d'addictif.
Ah.
C'est qu'à un moment donné, il faut rentrer
ouais.
dedans. Il faut rentrer dans l'écriture. Et là arrive l'inconfort. Parce que là, pour la première fois, je me rends compte que, ah, mais en fait, c'est pas si facile. Pourquoi ça vient pas aussi facilement que quand j'écris pour les autres? Et en plus de ça, je me heurte moi-même à plein de choses qui font partie de mon processus créatif de manière générale dans mon métier, mais que j'imaginais pas avoir une influence sur mon processus créatif personnel
ah ouais.
dans quelque chose qui en fait n'est qu'un bon moment que je m'octroie mm-hmm. en soi. Donc je me heurte déjà très très vite par exemple au manque de confiance.
Ah voilà, j'avais envie de te demander justement, je me dis je vais te laisser poursuivre ton idée, je me demandais justement... c'était quoi en fait ce blocage? Ça peut être tellement mm-hmm. de choses et je pourrais en parler pendant 3 heures de tous les blocages qui nous font
oui.
freiner alors que tout est juste et tout est ok et qu'on a envie d'y aller.
Mm-hmm.
Bah, tu viens de le mentionner. Le premier en fait, c'est la confiance ou le manque de confiance.
Ah oui, oui, totalement.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu entends comme petite voix à l'intérieur de toi à ce moment-là alors?
Oh là là.
On y va.
Eh ben, en fait, je commence à écrire et puis je me dis, ah, oh, c'est chouette. Alors j'imagine mon personnage, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et en fait, c'est comme quand on dessine, on a en tête, je sais pas, je me rappellerai toujours quand j'étais en primaire, on a dû dessiner un cheval ou en primaire, oui. Et dans ma tête, c'était super beau et impossible de rendre un cheval correct sur un papier. J'étais nulle.
Ouais.
Et en fait, non, j'étais pas nulle, c'est simplement que j'avais pas dessiné un cheval. Mais
il y avait un décalage entre l'image que tu te faisais.
Entre l'image que j'avais en tête, ouais. entre ce superbe cheval que j'avais en tête mm-hmm. et ce ouais. cheval ridicule que j'avais posé sur papier. Et en fait, je me heurte directement à ça en commençant à écrire pour moi. C'est que là, je ne dois plus imaginer quelque chose pour une autre personne et donc. C'est vraiment, ça se passe juste à l'intérieur.
Mmh.
Et donc, quand d'habitude j'ai le feedback ou le retour de quelqu'un d'autre, là je n'ai que le mien,
ouais.
et qui n'est absolument pas le meilleur apparemment, et certainement pas le plus bienveillant. Mais donc, j'écris mes premières pages, et puis directement je me dis, mais en fait, c'est nul. Enfin, et cette phrase, elle est moche, et c'est pas du tout ça que j'avais envie de donner comme impression. Et puis, je lis des premiers passages à mon entourage. Mm-hmm. Toi, t'en as relu aussi quelques-uns au tout début. Et directement, je me heurte à... C'est pas au feedback, je me heurte au fait que c'est pas parfait tout de suite.
C'est ça, j'avais envie de t'amener là-dedans.
Donc, premier blocage, le gros manque de confiance.
Ouais.
Deuxième blocage, le perfectionnisme. Horrible.
Donc en fait, toi, tu t'imagines, et je dis toi, mais j'imagine toutes les personnes que je connais, en fait, qui se lancent dans l'écriture, qu'on ouvre son PC, on pose des mots, et là, alléluia, quoi,
mais,
c'est le truc
parfait. Mais carrément.
Et on fait la page d'après, celle d'après.
Et quoi. Pas du tout. Et en fait, je me rends compte que mon perfectionnisme va même super loin quand j'écris dans mon carnet. Si, par exemple, à un moment donné, j'arrive vraiment quasi à la fin de ma page de mon carnet, pour ne pas entamer une nouvelle page alors que j'ai presque fini ce que j'avais envie de dire, je vais essayer de réduire un petit peu les textes pour pouvoir faire rentrer la dernière ligne et aller écrire vraiment tout petit au fond de la page pour que tout tienne dans une... C'est vraiment, en fait, c'est le contraire même de ce que j'imaginais dans l'écriture, à savoir quelque chose de super prolixe et qui vienne tout seul et que je puisse noircir des vingtaines de pages.
Une fois que je m'y mets, ça va, quoi.
Et quand on est en série d'écriture, on en rit toujours avec les autres. Celles qui disent « Ah, ben moi, j'ai écrit 20 pages aujourd'hui. » Oh, mais comment vous faites? Et en fait, ce mix entre le manque de confiance et le perfectionnisme fait que j'ai l'impression que tout ce que je fais est pas bon, que ça pourrait toujours être mieux, que donc ça devrait pouvoir être travaillé, mais j'ai pas envie de le retravailler parce que vu que je suis perfectionniste, pour moi, une fois que j'aurai posé les premières lignes, il faudra plus y toucher.
Ouais.
Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais revenir dessus, je vais constamment me dire que de toute façon, c'est pas assez bon.
Donc comment on dépasse ça? Parce que là, on est au début du process, il y a quand même plusieurs mois, tu t'en es rendu compte, tu l'as identifié à un moment donné, mais entre-temps, moi je vois et je suis témoin que le livre, il avance bien, donc t'as quand même écrit, donc à un moment donné, on dépasse, est-ce que c'est temporairement, est-ce que c'est définitivement, je ne sais pas, mais on dépasse ça quand même, tu le dépasses.
Je le dépasse parce que... Déjà parce que j'ai réussi à mettre des mots dessus, à travers les coachings, à travers les discussions avec d'autres plumes. Et en mettant des mots dessus, je me rends compte que, ok, il y a peut-être un domaine dans ma vie où je vais pouvoir me permettre d'être un peu moins perfectionniste, et ce sera peut-être pas plus mal pour tout le monde. Et donc, une des idées qui m'a été donnée par un ami qui écrit aussi, c'était, mais pourquoi passer directement à l'écriture finale, entre guillemets, à l'ordinateur? Pourquoi pas avoir un carnet intermédiaire dans lequel on fait un premier jet et dans lequel on peut faire des ratures, on peut dépasser, on peut faire des taches d'encre, on peut déchirer une page si on l'aime plus, sans que ça ait de conséquences incommensurables. Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer comme ça. Et depuis que j'ai ce petit carnet dans lequel je commence à écrire, et puis de temps en temps, je m'y replonge et je retape le texte. Ah ouais. Mais c'est une sorte de zone tampon dans laquelle, en fait, le perfectionnisme, là, on va dire qu'il n'est pas autorisé. Mm-hmm. Mais après, il devra revenir dans moment où j'écrirai vraiment.
C'est une étape intermédiaire,
vraiment.
Peut-être dans...
C'est une étape intermédiaire, totalement. Ouais. Et en fait, ça m'a vraiment permis d'être un peu plus à l'aise dans la manière d'écrire et donc de commencer déjà à écrire de manière un peu plus fluide. J'ai commencé à écrire dans ce carnet, je me suis rendu compte aussi que j'écrivais plus. Ça venait plus facilement. Il y avait plus, je me permettais peut-être d'aller un peu plus loin dans des descriptions, etc. En me disant que de toute façon, c'est pas grave parce que si je le prends pas, si je décide de pas garder cette partie-là dans le manuscrit par la suite, ben, c'est pas grave. Mais c'était déjà un sacré changement. Au tout début, quand j'écrivais un chapitre, chapitre 1. Et puis une fois qu'il était fini, je passais au chapitre 2. Et j'étais persuadée que je terminerais le chapitre 29 dans les deux semaines. Et qu'après ça, on va laisser peser, on n'en parlait plus. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'est très bien d'avoir 30 chapitres, 30 petites parties d'histoire, mais qu'il manque du lien, il manque quelque chose autour pour faire que tout ça a du sens et que tout ça rentre dans un ensemble cohérent. Et ce lien-là, et c'est d'ailleurs toi qui me l'as appris, il peut arriver dans un deuxième temps.
Tout à fait.
Et donc, donc en fait, je me suis vraiment autorisée dans ce carnet à être nulle. Et à me dire, ok, c'est pas grave, même si c'est mauvais, même si parfois tu vas relire ça et tu vas dire... Oh.
Oui, bon, alors, une petite parenthèse, ce que Florence appelle nul, on l'entend en cercle littéraire, il n'y a que Florence qui trouve ça nul. Hein. Nous, on est toutes là, scotchées, on a les feuilles du carnet, les feuilles volantes, et on est déjà là en train de, prête à pleurer, on est là en train de vibrer. Donc,
oui, je suis extrêmement dure avec moi-même. Mais donc, en fait, c'est vraiment m'être autorisée un peu cette zone de jeu comme un bac à sable dans lequel, ok, c'est... Ça doit pas être parfait, ça doit pas avoir une finalité spécifique, ça doit juste être, donner la possibilité d'être là et d'exister et de prendre vie. Et ça, en fait, ça a vachement débloqué l'écriture.
Oui. J'en étais témoin parce que moi, j'ai toujours ton écriture était déjà très très bonne et performante avant et l'histoire avançait, etc. Mais c'est vrai que on sentait que il y a quelque chose qui chez toi semblait te manquer. Tu n'étais pas complètement satisfaite de quelque chose et puis dans les échanges. En y repensant, oui, c'est vrai qu'en plus, vu vraiment le calibre de ta plume, on pouvait vraiment mettre le degré d'exigence beaucoup plus haut. Et donc, ça a été un super outil qui a été inspiré grâce à ton ami. Et en fait, ce que je retrouve ici dans ce que tu racontes, c'est qu'il faut être rusé, il faut être un peu roublarde avec son écriture. Tu as trouvé ta petite ruse, ta petite astuce. Peut-être pas complètement toute seule, parce qu'on n'écrit jamais seul. Il y a un ami, t'en a parlé, vous avez identifié, t'as testé. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quand on écrit, que ce soit un processus créatif quel qu'il soit, il faut être un peu rusé, un petit peu trouver ses trucs astuces.
Ah oui, en fait, moi je me suis vraiment rendu compte que c'était pas moi qui allais utiliser l'écriture comme un moyen de faire passer un message ou de faire ce que j'avais envie ou de créer. Je me suis vraiment rendu compte qu'en fait l'écriture c'était pas elle était pas là juste pour être là et rendre les choses faciles, il fallait apprendre à la maîtriser. Et vu que chacun a sa propre relation avec l'écriture ou avec tout autre, je pense, mode d'expression tout art que quelqu'un puisse vouloir essayer. Et là, dans mon cas, je me suis vraiment rendu compte que c'était une relation un peu d'amour-haine, comme ça, dans laquelle il a fallu que j'aille, moi, trouver un peu ma place, parce que soit je me faisais complètement happer par l'écriture elle-même, soit alors je la fuyais comme la peste, quoi, parce que c'était pas facile, parce que... Parce qu'en fait, parfois, elle m'offrait des choses magnifiques, et puis d'autres fois où j'avais l'impression que même en français, j'étais plus capable d'écrire quoi que ce soit. Quoi, il y avait rien qui venait, pas un seul mot. Ouais. Et donc, de fait, il faut être rusé dans le sens où c'est, en fait, c'est un vrai voyage intérieur. C'est qu'il faut à un moment donné comprendre comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne comme ça. Ouais. Et moi, mes ruses ont été trouvées et gagnées à force de bataille parfois un peu avec l'écriture, en me rendant compte aussi parfois que c'est pas juste un jeu, c'est pas juste se faire plaisir et poser quelques idées comme ça sur un carnet, c'est que ça demande de la rigueur, ça demande de pour reprendre les mots d'un auteur que tu aimes beaucoup, de poser son cul sur la chaise et de s'y mettre. Et ça, par contre, je l'avais pas encore compris. Et donc, dans mes rues, ça a été à un moment donné de me dire, bah tiens, moi, je me suis rendu compte que cette idée de poser mon cul sur une chaise pendant 3 heures devant une feuille blanche, ça marchait pas. Et donc, il y avait l'écriture dans un coin qui me regardait en disant, allez, et moi dans l'autre qui disait, non, je ne rentrerai pas dans ton jeu. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, comment est-ce que moi je fonctionne? Comment est-ce que les choses viennent? J'ai vraiment essayé de comprendre quel était mon processus d'écriture à moi. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que je fonctionnais beaucoup, c'est vraiment par épiphanie. Il y a à un moment donné une idée qui va venir et qui va prendre tellement de place, comme le déclic à Madagascar. Ouais. Il va prendre tellement de place que je vais plus savoir quoi en faire, il va falloir que je la pose. Et là, à ce moment-là, l'écriture va être là en mode « Ok, c'est bon, je suis là, on peut y aller. » Et je vais noircir des pages et ça va venir très très fort, très très profond, très très intense. Et après ça, je vais avoir écrit peut-être 5-6 pages. Et puis une fois que j'aurai posé mon point, je vais peut-être plus savoir y toucher pendant une ou deux semaines.
Ouais.
Tellement c'est fort, tellement ça va loin, tellement c'est profond, tellement... Parfois, j'y mets vraiment des tripes et je sors de là, je suis en pleurs. Enfin, mes propres personnages me font chialer comme une madeleine. Alors, Dieu sait que je pleure facilement, mais... à d'autres moments, je vais écrire une scène ou un passage avec tellement de colère que je vais sortir de là, mais je vais flanquer mon carnet sur le côté. Et d'autres moments où je vais revenir près de mon carnet toute amoureuse, toute contente de le retrouver, d'autres moments où je vais le garder super à distance. Et c'est vraiment très, très... En tout cas, c'est une chouette aventure. Mm-hmm. Je ne sais pas encore quelle sera la finalité, ni quelle est la...
La
destination finale, mais en tout cas, c'est une belle aventure. Et ça m'apprend énormément de choses sur moi-même.
J'allais justement te demander ça, c'est est-ce que tu prends conscience de tout ce que tu mets de toi, de tout ce que ça nécessite de ton toi intime, etc. Tu le sens, tu le vis ou...
Oui, beaucoup. Je le vis surtout à travers le fait que je sens que ça ne veut pas sortir. Je sens qu'il y a des choses que... Où une partie de ma tête se dit, allez, écris-le. Mm-hmm. Mets-le sur papier, donne vie à ça, à une partie de cette personnalité que tu as, de l'un de tes personnages, parce que ça permet justement, pour revenir à ces différentes vies, de me dire, ah ben tiens, cette partie-là de ma personnalité, je vais lui donner vie à travers tel personnage, par exemple. Ouais. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi faire face à certaines choses, revenir sur certaines choses, mm-hmm. affronter certaines choses, et c'est pas toujours facile. Il y a des moments où c'est très beau, il y a des moments où c'est très optimiste, très joyeux, et d'autres moments où ça donne un peu envie de se pendre.
Est-ce que tu crois pas que c'est une métaphore de la vie, en fait?
Ah si, si, complètement.
Je fais une image un peu simple ici, mais je me pose vraiment la question à chaque fois, est-ce que tu crois pas que ça... Ce processus vivant, l'écriture, c'est une métaphore de la vie en général.
C'est certain. Et d'ailleurs, c'est ce que je chéris dans cette nouvelle pratique que je m'offre depuis 2 ans. C'est que ça me permet de voir aussi un peu la vie différemment. Mmh. Que ce soit à travers la manière dont j'écris ou que ce soit à travers ce que j'écris.
Ouais.
C'est que ça, c'est de toute façon un reflet de ce qui se passe dans ma vie là actuellement. Et dans les histoires que je raconte dans mes carnets et dans mon manuscrit, je me rends vraiment compte qu'il y a énormément de ma réalité actuelle, passée ou même future qui entre en ligne de compte. Et parfois, j'ai l'impression que je vais tellement mettre de moi que je ne vais jamais oser montrer ça au monde.
Ouais.
Je ne vais jamais oser, à un moment donné, dire « Ah ben voilà, je vous tends mon manuscrit et je vous promets que vous n'apprendrez rien sur moi. » Parce qu'il y a tous les personnages que j'ai créés contiennent tellement de facettes de ma personnalité que
ouais.
ça sera le jour où je décide, si je le décide un jour de montrer ça au monde, ce sera une mise à nu.
Oui.
Terrible.
Ah oui, on pourra en reparler à ce moment-là pour vraiment l'avoir traversé avec certaines personnes qui ont voilà, abouti leur projet littéraire. Elles me disent quand même toutes beaucoup que c'est une renaissance.
Mm-hmm.
C'est pas évident le jour où on dit on y va. C'est encore une grande respiration. Mais
oh,
en fait,
oui.
On en reparlera, mais je vois tellement la ligne d'arrivée.
Si au moins il y en a une de nous deux qui la voit, c'est
moi et d'autres,
déjà ça.
Je sais qu'il y en a d'autres. En tout cas, ce que je trouve très riche dans ce parcours, c'est que tu t'es vraiment autorisée à y aller. Quoi.
Mm-hmm.
Aussi confrontant cela soit-il à certains moments,
ouais.
Et tu le dis, c'est drainant. Moi, c'est ce mot-là qui me vient à l'esprit, c'est drainant ce process. Surtout la manière dont tu le ramènes, tu le rapportes, mais je vois que c'est quelque chose aussi qui te fait bouger. Est-ce que tu vois les implications? Parce que tu parles des implications de ta vie dans l'écriture. Est-ce que tu vois l'implication de l'écriture dans ta vie? Tu la
oui.
vois aussi au quotidien ou dans certains aspects?
Oui, oui. Alors, je pense qu'il y a un gros mix de l'écriture plus tout ce qui se passe autour de nous, plus aussi le fait d'atteindre la trentaine et qu'à un moment donné, il y a quand même toujours cette période un peu charnière qui fait que on quitte les années les belles années pour rentrer dans les encore plus belles années. C'est comme ça que j'essaye de voir les choses.
C'est beau.
Et donc en fait l'écriture plus tout le reste a fait que j'apprends en fait énormément de choses sur moi-même et je commence à même à accepter certaines choses. Et ça, l'acceptation, on va dire qu'à la base, je crois que quand on a distribué l'acceptation, la confiance en soi, la bienveillance envers soi-même, je ne devais pas être là parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à m'accepter dans toutes ces facettes. Mais l'écriture m'y aide beaucoup parce qu'en fait, il y a des choses que je ne supporte pas chez moi, que je trouve extrêmement attachantes dans mes personnages.
Mm-hmm.
Ah. Il y a des choses que je chéris chez moi. Et qui m'agace dans mes personnages.
Mm-hmm.
Là, pour le moment, c'est vraiment très marrant à raconter, mais là, pour le moment, je suis en guerre avec un de mes personnages. elle m'énerve tellement que dès que je dois écrire sur elle, je dis « Ah non, non !» Parce que là, pour le moment, c'est pas comme ça que je me sens. Alors que quand j'ai commencé à écrire sur elle il y a 6 mois ou il y a 1 an, ça faisait tout à fait écho.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, ça me montre vraiment que je grandis, que j'évolue.
Ouais, t'évolues.
Et si ces 4 personnages-là peuvent m'aider à un moment donné à me dire ben un jour je mettrai un point final et puis ça me permettra d'aller à l'aube de ma trentaine par exemple de me dire ben voilà là maintenant
mm-hmm.
je suis ok comme je suis avec cette hypersensibilité qui fait que je vis les choses fois 1 million avec ce perfectionnisme avec cette incapacité à me projeter avec ce côté soupaulé que ma famille adore tant. Et qu'en fait, voilà, je suis juste comme ça. J'ai toujours, en fait, essayé de rentrer dans le moule pour plaire, pour être sûre que tout le monde m'apprécie et qu'on ne se dise pas à un moment donné « Oh, elle a quand même vraiment un sale caractère ». Je ne supportais pas quand on disait ça de moi parce que je ne voulais pas que les gens se disent ça. Je ne supportais pas quand on pouvait se dire que j'étais d'une certaine manière.
Ouais.
Alors qu'en fait, là, oui. En tout cas, l'écriture m'aide beaucoup à me dire que, bah, en fait, oui. C'est ok,
mais
c'est
voilà.
bien.
C'est ça, en fait, le message. Ah, c'est gay, j'adore entendre ça, je trouve ça merveilleux. Oui, c'est quand même un gros travail sur soi, même si c'est de la fiction, même si c'est une transposition de certaines choses.
Mm-hmm.
Je pense que c'est un gros travail sur soi et qui fait vraiment avancer. Ici, je me demande si tu as un petit conseil à donner à quelqu'un qui... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'écrire, j'entends des choses, je lis des choses, et moi, s'autorise ce fameux lancement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est là, j'ai toujours eu envie d'écrire, mais j'y vais pas, pour peut-être la confiance, peut-être des syndromes de l'imposteur,
mm-hmm.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à d'autres personnes?
La première chose que je dirais, c'est... En tout cas, la première chose qui m'a aidée, moi, c'est de me dire... Dans le pire des cas, personne n'est obligé de le voir, personne n'est obligé de le lire. Ça peut juste être entre moi et moi, et une sorte de terrain de jeu où on apprend à mieux se connaître. Et même, pas spécialement dans cette vocation-là, mais dans le pire des cas, personne ne le voit.
Ouais.
Et ça m'a vraiment aidée parce que, encore une fois, j'ai tellement envie que les gens me voient d'une certaine manière que montrer mes écrits, c'est... D'ailleurs, il y a que toi qui les, que toi qui les as lus actuellement. C'est très très dur. Et donc, le jour où je me suis dit, mais en fait, dans le pire des cas, je brûle tout et personne n'en saura jamais rien. Ça a déjà un peu débloqué. Ouais. Et un deuxième conseil que j'ai glané, je ne sais plus où. Je pense que c'était lors d'un de nos cercles d'écriture, de dire que si c'est même pas des lignes dans un carnet, si c'est même juste une idée sur une serviette, ça commence par là. Et donc l'idée de la serviette peut devenir après une idée sur une plus grande serviette, et puis peut-être devenir un post-it jaune, et puis un deuxième post-it jaune, et puis après 1000 post-it, et puis après un roman. Mais voilà. Commencer juste quelque part. Et un dernier conseil, c'est de garder ces serviettes. C'est que là, maintenant, je retrouve un plaisir fou à revoir les premières notes que j'ai écrites sur cette idée-là, que j'ai écrites dans ce Taxi Bruce avec mes mains qui partaient dans tous les sens tellement il y avait des bosses. Et ça me fait un bien fou de retourner là-dedans en me disant, mais ça, je retrouve les sensations de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Donc, de garder des traces de tout ça. Même si on se dit que c'est vraiment... c'est pas du Shakespeare et qu'on n'a pas envie de le montrer, juste pour soi.
Mon interprétation, c'est que tu te reconnectes à la source, en fait. C'est comme si tu te reconnectais dans ce souvenir des écrits, même aux sensations que tu as ressenties. Tu te reconnectes à tout et à la source qui te dit, on continue, quoi. Ça vaut toujours le coup. J'interprète comme ça, moi.
Oui, mais c'est clairement ça.
Oui. Super, dis donc, un conseil, trois pour la route, là, c'est parti. Donc, ça veut dire que tu as appris beaucoup de choses entre-temps.
Ok, oui.
Je crois que tu continues encore d'en apprendre. Merci pour ce partage. Est-ce que, du coup, écrire, c'est juste écrire? C'est juste mettre des mots et raconter une histoire où il y a autre chose derrière?
Mais là, pour moi, dans mon cas, écrire, c'est vivre. En fait, c'est bien plus que des mots. C'est quand j'écris, je rentre dans la vie d'un de mes personnages. Et puis je vis vraiment à travers lui. Donc, c'est pas une fuite, c'est pas une échappatoire. C'est juste s'évader, c'est vivre, mais juste autrement. Ça va beaucoup plus loin que les mots, en fait.
Ah, merci de partager ça. En tout cas, on a commencé cet échange, tu as évoqué cette image de la carapace qui fendit pour faire passer quelques rayons de lumière. Moi, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière qui sort. Je te vois presque en train de l'enlever, de la déposer presque à côté de toi. Et moi, j'ai envie de te dire bravo parce que j'ai été témoin à certains moments de l'évolution, de la métamorphose, et je me dis que cette Florence encore plus authentique, qui s'autorise des moments de vulnérabilité, avec cette hypersensibilité.
Ah, ça, je pense que c'est le mot, la vulnérabilité.
Oui, mais je pense que quand tu l'accueilles, et j'ai confiance en toi, et je sais que le jour où tu vas l'offrir au monde, cette vulnérabilité, elle devient affichée, elle te renforce personnellement. Je te vois renforcée depuis tellement de mois et je pense que tu vas faire un merveilleux cadeau à d'autres personnes qui vont le lire.
Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup.
Vraiment, c'est sincère et c'est pour ça que je suis derrière toi. Taillot, on continue. Est-ce que pour toi, on va terminer là-dessus, est-ce qu'il y a un mot ou des mots, tu les lis, tu les entends, tu les vois, est-ce qu'il y a des mots qui te délivrent?
Avec ou sans filtre?
Sans filtre ici.
Sans filtre ici. Moi, il y a un mot qui me délivre. Alors, je suis quelqu'un de qui je jure beaucoup. Mm-hmm. Je jure beaucoup. Et le mot putain. Il n'y a rien à faire. Moi, me délivre. Mais dans toutes les situations, dans toutes les émotions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, qu'elles soient extrêmement positives, je vais pouvoir me dire putain, c'est super beau ce que j'ai écrit, ou putain, j'en ai marre. Ou putain, je suis triste, putain, j'en peux plus. Et ce mot, en fait, me permet vraiment de... Juste... C'est vraiment ça, ça me délivre. Ouais. Il y a plein d'autres mots que je trouve très, très beaux. Et un particulièrement qui, pour le moment, fait un super écho dans mon quotidien, c'est le mot pluriel. C'est simplement... Déjà, je trouve qu'il est joli. Je m'attache beaucoup à... je peux dire que certains mots sont jolis et certains mots sont moches. Je
Bien
peux
sûr.
D'ailleurs te faire juste après du mot le plus moche de la Terre. Mais pluriel, pour le moment, fait beaucoup écho au fait de nouveau de se rapprocher de la trentaine, de se dire, et tout porte les femmes actuellement, enfin tout, non, absolument pas tout, mais de plus en plus de choses, on va dire, portent les femmes actuellement à utiliser ce terme-là aussi, et de s'accepter, de s'accepter avec ce terme-là, pluriel.
Oh, pluriel.
Qu'on peut, on peut être une femme, on peut être une future épouse, on peut être une chef d'entreprise, on va pouvoir être une maman aussi un jour, en plus de tout ça, parce qu'on peut être pluriel.
Ouais. Et autrice ?
Et autrice. Et autrice, ouais.
On va terminer sur ce mot-là, moi je dis.
Oui, parfait, ça me va.
Pour t'envoyer
on pourra être autrice
ondes.
Aussi.
Oui, pour la suite, hein. Autrice, pour couronner le tout, quoi. Ah, merci Florence, merci beaucoup.
Merci à toi de m'avoir invitée, c'était vraiment très très chouette.
Je suis mais honorée que tu sois venue ici déposer tout ça avec beaucoup de confiance.
Merci. Et parlant de vulnérabilité, ça doit être le moment le plus vulnérable de ma petite existence, là, pour le moment.
Ah, oh, bah tu vois, voilà. Merci beaucoup. Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire et laisse les mots te délivrer.